La musique est de retour.
Salut à tous et salut à toutes.
Bon.
Bienvenue à ce Musicorama assez génial.
Close up, take snap, hold up, take snap.
Oh, ok, vous ne faites pas d'erreur. Vous êtes bien connecté sur la radio sans concession.
Now in darkness, world stops turning. Ashes where the body's burning.
L'attitude actuelle commence à me polluer ferme. Ce qui n'était que provisoire s'est installé à long terme.
Radio provisoire.
Hello. Turn on the radio. I'm talking to you. I'm talking to you.
You're being grotesque.
It's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
Décibel. Décibel. Décibel sur le 99.9 Radio PFM libre et sans pub. Décibel, Jean au micro, salut. À l'occasion de la parution le 9 février de son premier album intitulé Vatic Vintage, je vous propose d'écouter un entretien avec Léo Courbeau, enregistré début janvier lors de la sortie du single.
Bon bah salut Léo.
Salut Jean.
Tout va bien ?
Tout va bien, merci. Merci de me recevoir sur PFM.
Alors, je te propose une petite conversation à Arras Bruxelles. Hein. Donc, à la sortie de ton premier single, qui est ce 12 janvier. Alors, le choix de la date, c'est pour nous annoncer une année meilleure.
je l'espère. Bon, c'est un single tourné plus ou moins vers le futur, qui se tourne vers le passé pour se projeter dans le futur. Donc et un futur meilleur, donc ouais, pourquoi pas.
En tout cas, un single qui annonce aussi la sortie d'un album, ton premier album, et là, il est prévu pour le 9 février. Tu nous dis quelques mots sur cet album, déjà son titre, pour commencer.
Oui, alors, Vatic Vintage, c'est un peu une contradiction ou un paradoxe, hein, parce que vintage, c'est un peu le rétro, ou si on parle de boisson, c'est pour les millésimes ou les crus. Tandis que Vatic, c'est un adjectif qui nous vient d'Ovide. C'était le surnom qu'Ovide donnait à Orphée, qui Vates. Et Vates en latin, ça veut dire poète et prophète. Donc Vatic, poétique et prophétique. Et c'est un album qui est tourné justement, qui relie la légende d'Orphée pour l'appliquer à différents thèmes d'actualité. Donc quelque part, c'est un cru tourné vers le futur ou un millésime un peu rétro aussi pour les sons de la musique, mais dont les textes sont tournés vers le futur ou vers ce qu'on pourrait annoncer ou ce que le futur annonce. Enfin,
mais on va tout de suite avoir une idée de cela en écoutant un premier extrait.
Unless you take heed.
And the only reason she's going under is that we turn a blind eye to our blunders. Soon there'll be nothing left of blue. Oh, unless you take note and let it sink in.
C'était donc un premier extrait de l'album Vatic Vintage de Léo Courbeau. Nous sommes justement en compagnie de Léo. Alors ce morceau qui porte d'ailleurs le nom de l'album, Léo, comment tu l'as conçu? Quelle est son histoire, sa composition? Et puis quels instruments aussi on a pu entendre?
Alors son histoire est assez longue. Parce qu'en fait, l'idée d'origine, le riff qui se répète tout au long du morceau, est une idée au départ qui vient du batteur de mon groupe Lillois. Ce batteur s'appelle Mehdi Benadji, mais c'est un multi-instrumentiste brillant et qui avait eu cette petite idée, qui n'en avait jamais rien fait, qui m'a dit « bon, tiens, je te la donne ». Et donc, j'en ai fait cette structure de chanson et j'ai posé un texte dessus que j'expliquais juste avant qu'on le passe, enfin. Rapidement, c'est un texte relativement écologique. On y reviendra peut-être après. Mais la façon dont je l'ai enregistré, eh bien, je l'ai enregistré à la maison, en home studio, tout seul, dans ma pièce à musique, on va dire. Et donc, je joue la basse, les guitares, je fais les voix, j'ai programmé les batteries. C'est pas un vrai batteur qui joue. Je sais pas jouer de la batterie, donc j'ai programmé des batteries. C'est-à-dire que je dis à chaque ordinateur, enfin à l'ordinateur, chaque coup. Chaque frappe qu'il doit placer, en gros. Et par contre, c'est Rémi Charlet du groupe Les Headshakers de Lille qui a placé les synthétiseurs en cuivre analogique, un peu comme Prince pouvait le faire dans les années 80. Donc voilà, donc un texte qui vient de moi, un riff de départ qui vient d'un autre musicien. Et après, par contre, la performance du morceau, j'ai tout fait tout seul dans une pièce, sauf pour les claviers.
Ok, on va parler maintenant de ton parcours, un parcours de vie, un parcours musical et aussi un parcours professionnel, tous les aspects étant bien imbriqués, comme on va le voir. Et on va partir, si tu le veux bien, d'Arras, qui est ta ville natale, ou en tout cas où tu as fait ta scolarité, où tu t'es formé aussi comme musicien et guitariste, avec un événement qui, je pense, a dû être marquant ou au moins peut-être même fondateur pour toi. On est en 2005, un concert de Lucky Peterson au Casino d'Arras, concert organisé par l'association Jam. Et Lucky Peterson t'invite sur scène à jouer avec lui. Tu as alors 15 ans. Tu nous racontes
ça? Oui, alors je suis très très impressionné à l'époque, hein. En fait, on a fait la première partie du concert avec mon premier groupe Locomotive, parce que dans le groupe, il y avait plusieurs musiciens de l'association Jam, une école de musique aragoise à l'époque. Donc voilà, mais après la première partie, Lucky Peterson me propose de venir improviser avec lui sur scène au cours du concert. Donc tout le long de son concert, je suis sur le côté de la scène à attendre qu'il m'appelle, et il m'appelle vraiment pour de bon pour jouer du Jimi Hendrix en plus, qui est un de mes héros, on va dire. Et donc voilà, et c'est un moment incroyable qui me vaut de paraître dans la Voix du Nord, enfin dans la presse locale le lendemain. C'est quelque chose de très marquant. Le bassiste qui était Charlie Hush Jr., qui est de Chicago, me recontacte après pour me dire je veux que tu viennes à Chicago pour enregistrer quelque chose. Puis bon, en fait, c'était un peu des paroles en l'air qui ne se sont jamais concrétisées. Mais c'est tout un moment de comment dire, tout un moment très stimulant où je me dis peut-être que je pourrais un jour devenir musicien professionnel, en fait.
Voilà, donc c'est un moment déterminant pour ton avenir de musicien en même temps.
Oui, déterminant. C'est le moment où je me dis que c'est ce que j'aimerais faire. D'ailleurs, bon, une petite pensée pour Lucky Peterson qui est mort il y a seulement quelques mois, qui nous a quittés. Voilà, et qui était un super bluesman, mais aussi une superbe personne humainement, faut le dire, parce que des fois, dans des personnalités publiques du jazz ou du blues, des fois, il y a des caractères assez difficiles. Et lui, c'était quelqu'un vraiment d'adorable.
Alors, suite à cet événement, et puis bon, tu es très jeune à l'époque, bon, tu poursuis tes études et en même temps tu te poses la question de ton avenir musical en tant que musicien. Et ça a dû être, je crois, un dilemme pour toi. Est-ce que je suis musicien amateur, professionnel? Est-ce que je choisis de faire des études et puis à côté de faire de la musique? Comment tu as essayé de négocier un peu tout ça?
Ah oui, ça a été très difficile justement parce que j'avais envie de devenir musicien professionnel, mais je me suis vite rendu compte que je voulais devenir musicien pro pour jouer mes propres compositions. Et faire un salaire avec sa propre musique dès le début, c'est quasiment impossible. Et je n'avais vraiment pas envie de passer par la case bal ou concert pour des mariages ou dans des centres commerciaux. J'avais vraiment pas envie de passer par cette case-là où jouer tout simplement une musique que je n'aimais pas juste pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est quelque chose qui ne m'attirait pas du tout. Donc je me suis dit, bon, il faut que je trouve une source de revenus qui me laissera le temps de faire un peu de musique. Et aussi, tant qu'à faire, qui stimulera ma créativité. Donc j'ai décidé de devenir professeur de lettres et de lettres anglaises. Au départ, vraiment, avec ma tête d'adolescent à 17 ans, en me disant, en plus, si j'étudie l'anglais, j'aurai aucun problème à être convaincant en écrivant des textes en anglais et en les chantant en anglais. Donc voilà. Et je pensais que j'aurais beaucoup de temps, mais ça, c'était une erreur. C'était une erreur. Être professeur, même si on ne fait pas forcément énormément d'heures face aux étudiants, on fait énormément d'heures tout court. Et donc, je n'ai pas forcément tout le temps que j'aimerais avoir, mais
Alors,
c'est un compromis.
voilà, ce qui t'a amené ces études et cette profession, ça t'a amené sur l'île et à la fois sur Bruxelles. Tu travailles sur l'île, c'est ça? Tu enseignes à Lille?
Oui, j'enseigne à l'Université de Lille, au département de lettres modernes. Donc voilà, je fais à la fois de la recherche en critique littéraire, hein, et j'enseigne l'anglais, disons généraliste, mais aussi l'écriture d'invention. Et je donne aussi un cours sur les musiques actuelles, justement, anglophones.
D'accord. Alors donc la musique, hein, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, mais la musique, en même temps, comme tu l'as dit, le choix que tu as fait de tes études et de ta profession joue sur tes compositions et sur tes textes, c'est bien ça?
Oui, énormément en fait, parce que bon, on fait de la. Je suis docteur en lettres, donc je fais des recherches. Et donc mes recherches, vu qu'elles sont en littérature, que je lis beaucoup de poésie, beaucoup de littérature, forcément les idées ou l'esthétique de ce que je lis me donnent des idées pour ce que moi je pourrais écrire. Et inversement, mon expérience de l'écriture m'aide à parfois avoir une compréhension différente ou plus approfondie de certaines lectures que je fais.
D'accord. Alors, on a parlé de trois villes, enfin, on a évoqué trois villes, Arras, Lille, Bruxelles. Est-ce que tu ressens, toi, dans ta vie, une certaine unité entre ces trois agglomérations?
Pas particulièrement, pas particulièrement. En fait, je pense que je n'ai pas de réel attachement aux localités. Je trouve qu'on se construit plus à travers nos déplacements que par rapport à des points d'ancrage, même si parfois ça peut revenir au même. Puis j'aime bien la phrase d'Edouard Glissant qui disait « Il n'est frontière qu'on outrepasse ». Je trouve que l'expérience du croisement des frontières, des cultures, des régions, des villes, enfin le déplacement, c'est ça qui est constitutif de l'identité plutôt que les lieux en eux-mêmes, quoi.
D'accord, alors on en arrive à ton album, donc à paraître le 9 février.
Oui.
Donc, son titre Vatic Vintage, tu nous l'as indiqué déjà précédemment. Quel est un peu ce qui fait son âme et ce qui fait son unité et sa cohérence à cet album?
Alors, son unité et sa cohérence sur le plan musical, c'est vraiment le style quand même très prononcé funk, même s'il y a des sons parfois très rock ou soul ou jazz, mais on est vraiment dans du funk avec une influence très prononcée de Prince, hein, il faut le dire, hein, je ne le cache pas, avec par exemple des sons de synthétiseurs très codifiés, on va dire, pour ce style de musique. Et puis l'influence, comme je l'ai dit, de Jimi Hendrix et puis de Jeff Lee Johnson, qui pour moi est vraiment dans l'héritage de Jimi Hendrix, tout en y apportant une couleur un peu à la John Coltrane. Mais bon, voilà, on est dans ce genre de mouvance musicale. Et au niveau de conceptuel ou de l'idée, tout l'album fait plus ou moins référence au mythe d'Orphée. Pour un premier album, parler de l'espèce de patron mythologique des musiciens, je trouvais que c'était un bon point de départ. Et vu que les mythes parlent tous de ce qui nous interpelle tous sur le plan individuel, hein, d'où on vient, où on va, comment on fait pour y aller. À partir de ce schéma basique du mythe, je pouvais aborder plein de thèmes d'actualité, donc comme l'écologie. Il y a une chanson qui s'appelle sur l'album qui s'appelle Isis, qui parle tout simplement de Daesh et des attentats à Bruxelles, hein, parce que Orphée descend en Hadès ou dans les profondeurs pour aller chercher sa bien-aimée. Là, je me dis que lui serait-il arrivé si son sous-sol, ça avait été le métro bruxellois ce jour-là, par exemple. Donc, ça permet vraiment de parler de plein de sujets d'actualité, parler de l'enseignement aussi. Donc, voilà. Et parler forcément de musique et du rapport à la musique ou à la beauté et de l'amour, évidemment. Donc, voilà, je trouvais que c'était un fil conducteur qui me permettait d'aller dans plein de directions thématiques, de pas non plus m'enfermer, tout en donnant une cohérence à l'album, en fait.
Alors, tout cela en anglais, donc il faut avoir peut-être la traduction des textes pour saisir un peu toutes les significations.
Oui.
C'est un choix que tu as fait qui est lié à quoi, en fait,
Oui.
que ce
Alors,
soit en anglais?
ouais. Alors d'abord, une toute petite correction. Presque tout en anglais. Il y a 10 titres sur l'album et l'un des titres est en français. Et d'ailleurs, c'est le premier titre que j'écris en français. Il s'appelle J'arrive. Et voilà, il raconte. Il parle d'une baigneuse en fait qui inviterait le narrateur à se baigner avec lui et voilà. Mais bon, alors l'anglais, pourquoi l'anglais? Bah, au départ, très honnêtement, c'est vraiment à cause de cette espèce d'impérialisme culturel américain et puis d'américanisme primaire de ma part aussi en tant qu'adolescent, parce que voilà, tous les musiciens que j'admirais étaient américains. Et puis les musiciens qu'on entend dans les médias parlent pour la plupart du temps en anglais, et donc on se dit que il vaut mieux chanter en anglais même quand on est français, pour atteindre des gens et puis pour jouer le style qui était le style que j'aimais, qui était celui des grands musiciens américains. Donc voilà. Mais après, finalement, pendant mes études universitaires, j'ai développé un réel amour de la littérature anglophone. Et puis je me suis rendu compte aussi que finalement la langue n'appartient jamais vraiment. Je veux dire, je maîtrise pas forcément, pas d'ailleurs non, je maîtrise pas du tout l'anglais entièrement, mais je maîtrise pas non plus le français qui est ma langue maternelle de manière intégrale. On n'est jamais en plein contrôle ou en pleine possession d'une langue. La langue n'appartient pas. Il y a toujours la possibilité du quiproquo, du double sens, de la métaphore et donc de l'image poétique. Et donc après, la langue, c'est juste un véhicule d'une poésie qui précède le langage, je pense. Donc voilà. Et finalement, parfois, et donc du coup, maintenant, je me laisse aller naturellement à la langue qui vient en premier. Il y a une idée qui se crée et des fois, elle me vient spontanément en anglais, des fois, elle me vient spontanément en français. Et donc, je laisse l'instinct faire pour le choix de la langue, même si pour l'instant, la majorité des chansons sont en anglais.
Alors, un dernier mot sur l'album lui-même. Bon, tu nous as expliqué un peu la manière dont tu l'as conçu, enregistré à la maison, etc. Est-ce que, avec un tel contexte, il y a encore la place pour l'improvisation?
Oui, et heureusement d'ailleurs, c'est ça qui est vraiment amusant. Malgré la solitude, hein, bon, j'ai pu collaborer avec certaines personnes sur l'album. Hein, j'ai parlé de Rémi Charlet et de Mehdi Benhadji, mais aussi des cuivres des Headshakers. Hein, Pierre-Yves Langlois a composé des sections de cuivre ou de violon pour certains de mes morceaux. Je le remercie d'ailleurs. Il y a des chansons déjà qui sont nées d'erreurs. Enfin, souvent, j'appelle ça des lapsus en musique, mais ce n'est pas des lapsus qu'on ferait en parlant, c'est des erreurs qu'on ferait en jouant d'un instrument, comme une sorte de lapsus, quelque chose qu'on n'avait pas prévu de faire et qui s'avère devenir une idée ou devenir une chanson. On développe cette erreur et puis ça ne devient plus une erreur, ça devient une prise de position. Donc ça, déjà, il y a la place à l'erreur, même quand on fait ça tout seul et de manière assez artificielle. Et aussi, il y a beaucoup de solos de guitare, forcément. Hein, je suis guitariste et c'est mon premier instrument. Il y a beaucoup de solos de guitare sur l'album et tous les solos sont improvisés. Sur le disque, il n'y a pas de solo préécrit. Pour le morceau qu'on a écouté, Vatic Vintage, il y a deux guitares. En fait, le premier solo que j'ai joué a été improvisé. Et l'idée qui est venue par la suite et qui était fortuite, c'était d'enregistrer une deuxième guitare qui viendrait répondre à ce solo de départ. Donc la deuxième guitare est écrite, mais le solo d'origine est improvisé.
Eh bien, on écoute tout de suite un deuxième extrait de cet album, Vatic Vintage, et le morceau, bah, je vais te laisser le prononcer.
Oui, il est assez long le titre. Il fait référence à une idée d'Edouard Glissant, mais ça s'appelle Prophetic Vision of the Past.
You ever seen the future?
Nous sommes toujours en compagnie de Léo Courbeau à l'occasion de la sortie de son premier album intitulé Vatic Vintage. Et on vient d'écouter un deuxième extrait de cet album. Alors, une question. Bon, bah, évidemment, cet album a été enregistré en studio maison, on va dire. Est-ce que il pourra y avoir à l'avenir une version publique, une version scène, je veux dire?
Ben, je l'espère, j'aimerais.
Avec d'autres musiciens, etc.
Je l'espère, j'aimerais beaucoup. Alors, vu que j'ai tout fait tout seul, et je n'ai tout simplement pas de groupe, hein, c'est vraiment un projet solo au sens le plus littéral du terme. Hein. Mais bon, j'ai des amis musiciens et j'aimerais en effet pouvoir monter une équipe et emmener ça sur les scènes quand les scènes rouvriront, si elles rouvrent un jour, je l'espère vraiment. Ou au pire, je suis même en train d'envisager un set acoustique. Si on doit faire ça en effectif réduit ou seul ou juste face à une webcam, pourquoi pas avec juste une guitare acoustique et une voix, même si c'est moins marrant qu'en collectif. Hein, y a quelque chose de... L'interaction est très importante dans les musiques qui touchent au jazz ou qui descendent du jazz. Donc, ouais, j'espère. Je ne sais pas si ce sera possible. Je suis dans l'expectative comme beaucoup de gens, je pense.
Voilà, alors on va clore cette conversation Arras-Bruxelles consacrée à ce premier album de Léo Courbeau à paraître le 12 janvier. On va se quitter avec un musicien dont tu as indiqué qu'il était une de tes références principales, Jeff Lee Johnson. Mais auparavant, tu vas nous le présenter. Je pense que tu vas nous faire une démonstration un peu du style de Jeff Lee Johnson et ce qu'il a apporté.
Ouais, enfin, démontrer, ce sera difficile parce que c'est quelqu'un qui était vraiment très talentueux. C'est quelqu'un qui a joué avec Miles Davis, D'Angelo, Funkadelic, qui a justement, qui a aussi composé énormément de musique qu'il donnait souvent gratuitement à des gens sur Internet. Il cherchait vraiment pas la renommée ou l'argent. Et c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer à Bruxelles et avec qui j'avais eu la chance de correspondre. Et malheureusement, il est aussi décédé récemment. Et on s'était disputé peu de temps avant son décès. On n'a jamais pu se réconcilier. Mais ça reste quelqu'un qui m'a beaucoup influencé et que je trouve prodigieux, qui écrit très bien des textes et qui est un guitariste incroyable et hors pair. Je pense que c'est le Jimi Hendrix du 21e siècle. Et sa façon de construire certains de ses solos a beaucoup influencé le son de mon album, dans le sens où, en fait, au lieu de juste utiliser des gammes blues, donc je ne sais pas si vous m'entendrez, mais des gammes blues de ce genre, il y a ajouté des gammes diminuées, un peu comme Miles Davis, des gammes un peu hispanisantes, qui sonneraient plutôt comme ça. Donc voilà, et en mélangeant les deux dans un style plutôt blues et hendrixien, il a trouvé une patte qui lui était vraiment propre et à laquelle je fais des emprunts dans ma musique. Donc voilà, merci Jeff Lee Johnson.
Eh bien, on se quitte avec Jeff Lee Johnson, un morceau que tu as choisi, Sky. Léo, bonne chance pour ce premier album.
Merci beaucoup.
On pourra le trouver partout ?
Oui, on pourra le trouver alors sur toutes les plateformes numériques en vente. On va pas les citer. Mais aussi sur une plateforme qui s'appelle Bandcamp, donc leocourbeau.bandcamp.com. Et là, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment d'intermédiaire, ou l'intermédiaire, en tout cas, ne prend pas 90% des recettes de l'album. Et surtout, la personne qui achètera le disque pourra choisir elle-même le prix qu'elle veut mettre pour le disque. Donc voilà, ça, ce sera pour le format numérique et pour le format physique. J'envisage de sortir un 33 tours, mais pas de faire un pressage où je risquerais de devoir jeter des vinyles à la poubelle, parce qu'en plus, l'album défend parfois un message écologique, donc on va essayer de faire du zéro déchet. Donc je vais passer par un système de précommande, et seulement si j'atteins un certain nombre de précommandes, je lancerai un pressage en étant sûr que tous les disques seront vendus. Comme ça, rien ne part à la poubelle ou rien ne reste sous un lit ou au fond d'un placard, pour pas faire de gâchis de ressources, en fait.
Très bien. Eh bien, merci Léo. À bientôt.
Merci Salut. Beaucoup à toi, Jean. À très bientôt. Salut.
Jeff Lee Johnson.
She's such a hopeless romantic. the soulful tears, a gentle rain. She doesn't ever get frantic, no. A storm or two, then past the pain. She like a loving invader. Silver lining shining through. She's such a gentle persuader. Redefining tried and true. Sky just as far as my eye can see. Lay down your heaven over me.
C'était donc un entretien avec Léo Courbeau, enregistré le 8 janvier. Son album Vatic Vintage sort le 9 février. Avis aux amateurs. Décibel sur Radio PFM, c'est terminé. Salut!
Changes are always in the air. She's got the whole thing covered. All day, all night, all things to me. So much yet undiscovered. As far as every eye can see, sky.